Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump fait marche arrière à Davos. Le président américain lève ses menaces militaires et douanières. Il annonce un accord avec l'OTAN sur le Groenland. Nous serons à Washington dans ce journal pour tenter d'y voir plus clair. Une femme abattue au volant de sa voiture hier soir à Nice sous les yeux de son bébé. Deux suspects sont en fuite, activement recherchés ce matin. Et l'OM qui prend l'eau au Vélodrome, battu 3-0 par Liverpool. Les Marseillais joueront leur qualification barrage de Ligue des Champions la semaine prochaine.
Donald Trump joue la carte de l'apaisement à Davos.
L'air des Alpes suisses semble avoir calmé les ardeurs du président américain. Donald Trump recule sur de nombreux points et se targue d'avoir conclu le cadre d'un futur accord sur le Groenland avec l'OTAN et l'ensemble de la région arctique.
C'est un excellent accord pour tout le monde. C'est un accord que tout le monde a saisi. Vraiment fantastique pour les États-Unis. Il répond à toutes nos attentes, notamment en matière de sécurité nationale et internationale.
Et tout est encore très flou ce matin, il reste encore beaucoup de travail, dit le chef de l'OTAN, Mark Rutte, qui précise que la souveraineté du Groenland n'a pas été abordée. À Washington ce matin pour RMC, Antoine Lard, on se demande, Antoine, ce que Donald Trump a pu obtenir pour rebrousser chemin après plusieurs semaines d'attaques et de menaces.
Écoutez, on comprend entre les lignes que grâce à cet accord, les Américains vont pouvoir renforcer leur présence militaire dans la région. Selon plusieurs médias, les États-Unis pourraient obtenir des morceaux de territoire groenlandais, quelques kilomètres carrés, sur lesquels Washington construira des bases, notamment pour déployer le Golden Dome, ce super bouclier antimissile voulu par le président Trump. Les Américains pourraient aussi avoir une sorte de droit de regard sur les ressources minières du Groenland, et ce, afin d'empêcher la Chine et la Russie de les exploiter. La Maison-Blanche, en tout cas, salue ses avancées et les talents de super négociateur de Trump. La réalité, c'est que tout cela ressemble quand même beaucoup à une porte de sortie. Alors que le président américain se trouvait face à un mur, face à la détermination des Européens, face à la dégringolade de Wall Street, et qu'au final, il a dû reculer. Fini donc les menaces militaires ou douanières, fini aussi les velléités d'annexion. Trump fait marche arrière et ce projet d'accord lui permet de ne pas perdre la face en laissant entendre que l'escalade de ces derniers jours n'était qu'un coup de bluff pour mettre la pression sur les Européens et obtenir des concessions.
Et le sujet sera sur la table d'un conseil extraordinaire des chefs d'État européens ce soir à Bruxelles.
Une première victoire pour les agriculteurs.
Les eurodéputés ont voté hier en faveur d'un recours juridique européen contre l'accord commercial avec les pays du Mercosur. Ça s'est joué à 10 voix près. Cela pourrait retarder l'application du traité à moins que la Commission européenne ne décide de l'appliquer à titre provisoire le temps de la procédure. Deux hommes activement recherchés ce matin à Nice. Ils ont fait feu sur une voiture hier soir dans un quartier résidentiel de la ville. À son bord, une femme et son bébé, la mère de famille, a été tuée. Une enquête pour assassinat est ouverte. Célestin Bougère.
Peu après 18h, la jeune femme circule sur l'avenue Henri Matisse à l'ouest de Nice. À bord de la voiture, son enfant de 6 mois. C'est à ce moment-là qu'elle est touchée par des tirs. Deux hommes sur un scooter prennent alors la fuite, selon une source policière. Malgré l'arrivée des secours, elle ne peut être réanimée. Son bébé, lui, n'a pas été touché. Il est sain et sauf. Un des habitants du quartier est tout de suite descendu sur les lieux du drame.
J'ai vu la voiture avec des impacts de balles, une femme allongée. Elle était avec son enfant, je crois, de bas âge en plus. 30 minutes après, il y avait le drap blanc sur son corps, donc c'était fini. Il y a une école à côté, il est 18h, les gens ils sortent du travail. Ça rassure pas trop, quoi.
Le scooter a été retrouvé abandonné 6 km plus loin, près de la gare de Nice, sans plaque d'immatriculation. Le maire Christian Estrosi, qui s'est rendu sur le lieu de la fusillade, a exprimé sa colère.
Je souhaite ardemment que le criminel, avec cet acte d'une barbarie inouïe, soit poursuivi et condamné avec la plus grande fermeté et sans la moindre faiblesse.
Le parquet de Nice a ouvert dès hier soir une enquête pour assassinat.
Surpopulation, insalubrité, violence, le Conseil de l'Europe s'alarme ce matin dans un rapport de l'état des prisons françaises évoquant, je cite, des entrepôts humains, citant quelques exemples, Fleury, Mérogis, Fresnes ou encore les Baumettes à Marseille. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Marine Le Pen a plaidé la bonne foi de son parti hier au procès en appel des assistants parlementaires du FN, deuxième et dernière journée d'audition pour la chef de file des députés RN qui joue son avenir politique. Guillaume Bier, chef du service police justice RMC, vous avez suivi l'audience. Est-ce qu'il en ressort ? Ce sont de légères concessions de Marine Le Pen qui se dit toujours innocente.
Oui, et il aura fallu attendre la toute dernière question de la présidente après 7 heures d'audition hier pour que Marine Le Pen résume sa ligne de défense. Oui, elle concède que certains assistants parlementaires payés par Bruxelles ont pu travailler pour le parti de manière résiduelle. Est-ce que c'était volontaire? Je ne crois pas, dit-elle. Avait-il conscience de commettre un délit? Je suis convaincu que non, ajoute Marine Le Pen, qui conteste formellement tout système organisé pourtant mis en place par son père. Si tout ça était à refaire, on ne referait pas la même chose, conclut-elle, manière d'espérer éviter une peine d'inéligibilité. Mais durant ses auditions marathon, elle a été maintes fois mise en difficulté par les juges. Indice à l'appui. Alors à l'issue hier soir, c'est une Marine Le Pen fatiguée qui nous a confié avoir eu le sentiment d'avoir pu s'expliquer lors d'une audience normale, plus agréable selon elle que l'ambiance électrique de première instance.
Le livret A n'a plus vraiment la cote l'an dernier. Les Français ont davantage retiré d'argent qu'ils n'en ont déposé sur le livret A. C'est une première depuis 2015. Les détails à suivre dans le journal de 7h30. Après Nestlé, le groupe Lactalis rappelle à son tour des lots de lait infantile. 6 lots de la marque Picot sont concernés en France et dans 16 pays. Des boîtes de lait en poudre pouvant contenir une substance d'origine bactérienne. Et pour faire la lumière dans cette affaire qui pourrait concerner des millions d'enfants dans le monde, une plainte va être déposée par l'association Foodwatch. L'OM surclassé hier soir en Ligue des Champions, sèchement battu 3-0 au Vélodrome par Liverpool. Pas ou peu de choses à retenir de cette rencontre, si ce n'est Florent Germain, que la qualification en barrage n'est pas encore acquise.
Oui, l'OM n'a pas été à la hauteur de l'ambiance et des attentes du Vélodrome. Défaite lourde, logique et beaucoup de déception forcément chez les supporters marseillais.
Franchement, ils nous ont pas respectés. C'est pas normal qu'à chaque grand match, que l'OM ne réponde pas présent. À domicile, il n'y a personne à chaque fois.
C'est un match de prestige, c'est Liverpool. Les joueurs, ils nous offrent ce match-là. Enfin, je ressors dégoûté. Enfin, franchement, j'ai pas les mots.
L'OM a parfois donné la sensation d'être impuissant contre Liverpool, reconnaît l'Américain Timothy Weah.
On a beaucoup d'ambition dans ce club, on voulait gagner ce match, mais des fois le foot c'est comme ça, Liverpool ils étaient meilleurs, on va prendre les négatifs et les positifs et on va travailler.
Marseille a manqué son rendez-vous, mais l'OM peut encore se qualifier pour les barrages, c'est l'espoir auquel s'accroche l'entraîneur Roberto De Zerbi.
On savait qu'il serait meilleur, mais on pouvait faire mieux, on a encore Bruges qui est fort, expérimenté. Si on nous avait dit en début de saison qu'on pourrait jouer la qualification avec 9 points, on aurait été content.
En attendant le match décisif à Bruges mercredi prochain, l'OM retrouve le Vélodrome dès samedi pour affronter Lens, leader de Ligue 1.
À suivre, ce soir, la 7e et avant-dernière journée d'Europa League. Lyon tentera de garder la tête en déplacement sur la pelouse du club suisse des Young Boys Berne, 18h45 sur RMC. On suivra aussi Lille et Nice. Autre rendez-vous 20h30 sur RMC, toujours le premier match du tour principal de l'Euro de Hand pour les Bleus opposés au Danemark. Et puis Thibaut Flamand, absent du 15 de France pour affronter l'Irlande le 5 février prochain en ouverture du tournoi des 6 nations. Il va accompagner sa femme atteinte d'endométriose dans son parcours de PMA.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h07 sur RMC. Vous êtes nombreux à réagir à cette question de travailler ou non le 1er mai. Pourquoi on en débat aujourd'hui? Eh bien parce que les députés eux-mêmes en débattent cet après-midi un projet de loi pour officiellement encadrer ce travail du 1er mai pour les boulangers, les bouchers, les fleuristes, la restauration. Vous vouliez réagir, Marcel, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment oui, ça va, réagir. Marcel? Vous êtes agent de sécurité à Fécamp, en Seine-Maritime. Vous bossez le 1er mai, vous?
Régulièrement, pas à chaque fois, ça dépend du roulement, mais je fais de la sécurité, je vous avais eu une fois depuis 98, et avant je travaillais au sein de la RATP, donc voilà, les jours fériés, les 1er mai, c'est quelque chose de banal, donc travailler les 1er mai, les autres jours fériés, ça permet justement, à l'époque, on pouvait se déplacer en semaine pour faire des papiers, etc. Ouais. Et là, ça permet de...
En fait, le côté horaire décalé, jour décalé, vous paraissez... Enfin, vous y trouviez votre compte, quoi.
Ah oui, oui, faire les courses le matin plutôt que quand il y a plein de monde le soir, c'est quand même pratique.
Ouais, et c'est vrai que c'est cette... Vous vous dites, il faut pas sacraliser le 1er mai, il faut laisser la liberté à chacun de bosser ou de pas bosser.
Ah, tout à fait. Alors faire du syndicalisme, être syndicat, il y a aucun souci. Après, si les syndicats voient que les gens veulent travailler 1er mai, faut pas aller contre ça non plus. Faut être ouvert d'esprit, comme on dit.
Ouvert d'esprit, c'est toute la question. On verra s'ils le sont vraiment aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a une sorte de côté sacré autour du 1er mai. C'est en tout cas ce que disent les syndicats qui, pour la plupart, en tout cas la CGT notamment, refusent cette loi. On verra qui obtient gain de cause aujourd'hui. Il y a pour l'instant que LFI, me semble-t-il, qui a vraiment dit qu'il voterait contre, sachant que ce sera encadré, c'est-à-dire que le salarié qui ne souhaite pas travailler ne sera pas forcé, semble-t-il. Alors c'est toute la question, c'est est-ce qu'il y a une pression, est-ce qu'il y aura une pression sur les salariés d'ailleurs. Oui, ça fait partie des messages, Mathieu.
Oui, ça fait partie du débat. Et Myriam nous dit aller travailler le 1er mai avec le volontariat. Après, ça fera comme pour le travail le dimanche. On verra que le volontariat, il a pas duré très très longtemps et on peut être contraint à respecter ce qu'ont fait les anciens. Bientôt, ils vont nous enlever les congés payés, nous dit Myriam.
On en débat parce que vous le voyez, le débat est vif. Marcel qui dit il faut laisser les gens bosser. D'autres qui disent bah non, en fait, il faut sacraliser un certain nombre de points. Je précise quand même que le 1er mai, à la différence des autres jours fériés, si on travaille le 1er mai, on est payé double, et ça, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Merci Marcel. Comme Marcel, vous connaissez le chemin. Le 32-16, il est 7h10 et c'est un témoignage exclusif RMC particulièrement fort que l'on va vous faire écouter dans un instant. Celui d'un père de famille. Son petit garçon a été violé par son babysitter, c'était il y a 6 ans. L'homme a été condamné, mais il est soupçonné d'avoir récidivé. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour
Apolline. Vous êtes journaliste au service police-justice d'RMC. C'est vous qui avez rencontré ce papa en colère. Il veut que la société protège davantage les enfants. On savait pour ce babysitter et on n'a pas protégé. C'est son parti pris dans un instant à votre micro et vous nous le dites. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le parti pris ce matin, c'est la colère d'un père. Bonjour Pierre Bazin. Pierre, vous
Bonjour
êtes journaliste au service police-justice d'RMC. Vous êtes en direct de Nice où vous avez rencontré hier soir en exclusivité pour RMC Alexandre. Alexandre, ce père de famille. Il y a 6 ans, son fils a été violé par son babysitter. L'homme a été condamné en 2020. Il avait été condamné et il ne devait plus entrer en contact avec des enfants. Pourtant, il est aujourd'hui suspecté d'avoir fait de nouvelles victimes dans le Nord.
Oui, il y a quelques jours, Alexandre reçoit un appel de son avocate, le babysitter, l'homme qui a violé son fils en 2019, alors que l'enfant était âgé de 2 ans et demi. Eh bien, cet homme est suspecté de nouveaux faits de vol, de viol. Il vient d'ailleurs d'être incarcéré pour cette raison. Après avoir été condamné à 5 ans de prison, il aurait donc recommencé sur d'autres enfants, mais cette fois-ci dans le nord de la France.
Quand on apprend cette nouvelle-là, bah c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de massue sur la tête et une immense colère. Une immense colère. Comment c'est possible qu'on protège si mal nos enfants? Il est censé être sous suivi psychologique, suivi judiciaire, il a été soigné, médicamenté. Il se passe rien au final. On parle de 30 familles. Potentiellement, c'est énorme. C'est révoltant de se dire que ce mec, il va se balader, il peut s'inscrire sur un site. Il aurait pu continuer comme ça pendant combien de temps? À opérer sur des tout petits qui parlent pas, qui l'enferment dans ses griffes, c'est horrible.
Pierre, comment ce papa s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le babysitter ?
Eh bien, un soir de 2019, Alexandre douche son fils, mais sous cette douche et avec ses mots de petit garçon, son fils lui fait une confession.
Il nous a dit que ce babysitter, qui s'appelle Camille, avait mis son zizi dans sa bouche. Que stupeur, tremblement, c'est un gros coup de marteau sur la tête. Et heureusement, on a rapidement été entendu à la police. Et dès le lendemain, il était arrêté puisqu'il partait travailler dans une crèche de luxe en Suisse 2 jours plus tard. Donc il y avait urgence.
Vous lui aviez accordé votre confiance ?
Les enfants l'adoraient, en fait. Il était super, il était sympa, il comprenait, il était rigolo. C'était l'agneau. Avec l'enquête, on découvre le récit aussi de ce qui s'est passé plus précisément. Ça fait froid dans le dos. On découvre son témoignage où il parle même de zoophilie, enfin de trucs vraiment déroutants et dégueulasses. On imagine toutes les horreurs qui ont pu arriver. Il faut faire quelque chose, il faut pousser l'enquête.
Et aujourd'hui, ce père de famille, on l'a entendu, il est particulièrement en colère, Pierre.
Oui, Alexandre nous avoue avoir des envies de vengeance encore aujourd'hui contre cet homme, alors qu'il a toujours choisi de faire confiance à la justice. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'au moment où le tribunal condamne le babysitter à 5 ans de prison et une interdiction d'exercer un métier avec des mineurs, Alexandre pressent qu'un jour, eh bien, ce babysitter pourrait recommencer.
Le fantôme plane. On sait qu'un jour, on ne sait pas si nous on va être prévenus d'ailleurs, mais on sait. On sait que la sanction qui n'est pas adaptée et le suivi qui n'est pas adapté. Enfin, c'est délirant de savoir qu'on lâche des malades sexuels dans notre société et qu'ils peuvent s'installer à côté de chez nous et qu'on n'en saura rien et qu'on laisse nos enfants jouer dans le jardin. Comment ça se fait que des parents puissent faire confiance à des sites internet qui disent « Ok, on vous trouve des babysitters sans autre vérification ». Pourquoi ces sites internet n'ont pas les moyens eux-mêmes de vérifier non plus les profils de ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas une liste des délinquants sexuels sur mineurs qui soit accessible au moins à certains types d'autorités ou d'organismes? Qui va prendre le sujet à bras-le-corps? C'est des sujets qui sont tabous, c'est des sujets qui dérangent. C'est une prise de conscience politique qu'il faudrait sans doute de tous bords, en fait. Comment on protège nos enfants? Pourquoi protéger les enfants, c'est pas le débat public? On est tous concernés. Et c'est parce que les enfants, ils peuvent pas crier assez fort. Si on prend pas soin de nos enfants, on prend soin de rien.
Aujourd'hui, il y a des parents dans le nord de la France qui se disent peut-être que mon enfant a donc été victime de cet homme. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur dire, vous qui avez déjà traversé cette épreuve?
Je suis désolé pour eux. Mais qu'il faut croire à la faculté de résilience des enfants et puis ça va aller.
Alexandre interpelle aujourd'hui les pouvoirs publics et les acteurs de la petite enfance. Il espère une prise de conscience. Il veut surtout tout faire pour empêcher que ce genre de cas ne se reproduise.
Qu'il ne se reproduise comme justement ça semble être le cas. C'est terrible, au-delà du témoignage, de voir le dysfonctionnement aussi de notre chaîne, en quelque sorte, à la fois de justice et de protection des enfants. Merci Pierre Bazin, donc journaliste police-justice d'RMC. Et merci à ce papa d'avoir donc témoigné. Alexandre, papa d'un petit garçon violé en 2019 par cet homme accusé à nouveau donc de viol dans le nord de la France. Vous êtes sur RMC, il est 7h19. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Une étude révèle que plus d'un Français sur cinq ne porte pas systématiquement sa ceinture quand il est à l'arrière d'une voiture.
Oui, c'est une étude de la marque Volvo, le constructeur qui a inventé les ceintures de sécurité. Et en France, elles sont devenues obligatoires à l'avant en 1973.
Et puis Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes, il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20, vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. On va remonter le fil de l'histoire avec Arthur Chevalier. Arthur, d'après une étude de l'IFOP et de la marque Volvo, la ceinture de sécurité, c'est toujours pas une évidence pour tous les automobilistes.
Oui, des statistiques surprenantes, Apolline. Un Français sur cinq ne porte pas systématiquement sa ceinture quand il est à l'arrière, même si 96% d'entre eux déclarent quand même que mettre sa ceinture, c'est devenu un réflexe. Et on constate que les hommes sont beaucoup moins disciplinés que les femmes en la matière. Statistiques, en 2024, ils étaient d'ailleurs responsables de 84% des accidents mortels sur la route.
Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à la question de la sécurité routière?
Dès le début de l'automobile, tout de suite. Ces bolides à essence ont tout de suite fait peur, à tel point qu'à la fin du 19e siècle, les voitures étaient tout simplement interdites en centre-ville. Une interdiction qui n'a pas duré, puisqu'on a pris des mesures pour organiser tout ça. Dès 1893, on impose un certificat de capacité pour les véhicules à moteur, c'est l'ancêtre du permis de conduire. Quant à la vitesse, elle est limitée dès 1899, donc il y a plus d'un siècle, 20 km/h en ville, 30 km/h à la campagne. Inutile de préciser qu'à l'époque, les voitures roulaient beaucoup moins vite.
De toute façon, évidemment. Voilà. Il y avait des panneaux de signalisation, des feux rouges, des stops.
Mais oui, des panneaux de signalisation, il y en a eu tout de suite aussi. Et le premier fabricant, c'était l'entreprise Michelin. Michelin, en 1909, met à la disposition des communes des panneaux de signalisation. Alors, au début, il n'y en avait que quatre de ces panneaux. Ça annonçait un croisement, un virage, un passage à niveau ou un dodane. Quant au premier feu rouge, ça date de 1923. C'était à Paris. Il n'y avait qu'une seule couleur, le rouge. Le tricolore, ça arrivera plus tard.
Mais on l'allumait de temps en temps, parce que c'était pas rouge tout le temps. Il y avait déjà des passages piétons.
Il y en avait même il y a 2000 ans à Rome, des passages piétons à Pauline. C'était des passages surélevés qui permettaient de traverser sans se faire écraser par les chars tirés par des chevaux. Plus récemment, à l'époque de l'automobile, ça arrive en France dans les années 1920. D'abord, c'était des bandes rouges peintes au sol. Ces bandes rouges, elles sont ensuite remplacées par les fameux passages cloutés. d'où l'expression, hein, passage clouté, puisqu'ils étaient vraiment cloutés. C'était des rangées de clous plats de 10 cm de diamètre qui délimitaient les zones où traverser. Et il faut attendre les années 50 pour qu'apparaissent les passages zébrés, c'est-à-dire ceux que nous connaissons aujourd'hui.
Ah, j'adore avoir appris tout ça. Depuis quand est-ce qu'on est censé porter des ceintures de sécurité?
1973, hein, c'est la ceinture, et c'est pas un hasard, puisque l'année précédente, 1972, a été la plus meurtrière jamais enregistrée. 18 000 morts d'accidents sur la route. Pour comparer, en 2024, c'était un peu plus de 3 000. Hein. Donc en 1972, c'est la panique. On prend des mesures drastiques et parmi elles, l'obligation de la ceinture à l'avant. La ceinture, à l'origine, c'est d'ailleurs une innovation de la marque Volvo, qui est à l'origine de l'étude dont on parle ce matin. Et dans les années 70 et 80, on pose donc les bases de la sécurité routière d'aujourd'hui. Limitation de la vitesse sur l'autoroute à 130, port du casque obligatoire sur les motos, ou encore le retrait de permis immédiat en cas d'ébriété.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud, dans le face à face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je vais recevoir le patron de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, Nicolas Dufourcq.
Bah oui, c'est un pauvre petit lapin. Il doit pas aller bien, le pauvre petit père, il doit être au bout du rouleau, il va pas s'asseoir en face de vous, au face à face, il va s'allonger direct sur la table. J'en peux plus, moi, madame de Malherbe. Mon truc à la base, c'est les investissements, mais vous avez vu le contexte actuel, c'est le bordel, qui va investir? Je sers à rien, ma mère m'avait prévenu. Vous le savez, la Banque Publique d'Investissement.
Pauvre petit Nicolas Dufourcq.
La Banque Publique d'Investissement a été créée sous François Hollande, hein, dont l'ennemi, c'était la finance. Ce qu'on a vu d'ailleurs, son ennemi, c'était aussi l'emploi, l'économie, la croissance, le travail, les régimes amincissants et la fidélité.
Oh.
Il avait tellement d'ennemis, cet homme-là. Alors, vous reviendrez ensemble sur le discours lunaire de Donald Trump à Davos. Hier, je crois que c'était le discours de Trump le plus hallucinant depuis au moins avant-hier.
Oui, c'est ça.
Une logorée interminable, c'était décousu, c'était génial. Il a confondu l'Islande et le Groenland pendant 70 minutes. L'Islande appartient au Danemark. Nous devons l'avoir. Nous sommes la plus grande économie du monde et je suis meilleur président car la Somalie a un tout petit QI. Je suis dictateur. Le monde est méchant et les éoliennes chinoises et... Oh, j'ai fait caca.
C'est... Oh non.
Horrible. Alors en ce moment, c'est la guerre des droits de douane.
Oui, reprenons les choses un peu sérieuses. L'économie.
Le mieux, ce serait même d'enfermer Donald Trump et Emmanuel Macron dans un octogone. Allez hop, clac. Et je taxe tes vins et champagne. Et ben moi, je te taxe tes GAFA. Et ben moi, je te taxe ta mère. C'est ma femme. Et je te mets 200% sur les importations de Bimbo slovène. Oh, comment je vais acheter une nouvelle Mélania? Alors voyons comment on vit cette guerre économique entre l'Europe et les USA chez nos voisins de BFM Business.
Ah oui.
Où habite le couple Edwige Chevrillon, Emmanuel Le Chiffre.
Moon, je pars à la guerre économique. Je suis appelé sous les drapeaux. Tous les économistes sont mobilisés.
Tu es armé au moins, mon beau militaire.
J'ai ma calculette, un taille-crayon, une cravate Brioni et mes mocassins à glands de combat. Et si, je ne reviens pas, tu auras le droit d'épouser Nicolas Dose.
Non, alors je préférerais Nicolas Dufourcq.
Eh oh, il est riche, en plus, il est réformé.
Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire.
Allez, rendez-vous avec le légionnaire à 8h30. Waouh, à tout à l'heure.
Le manche qu'on retrouve tout à l'heure en direct à 8h20 et à tout moment en podcast, bien sûr, sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Puis juste après le journal, cette question, ouvrir les commerces le 1er mai, les députés doivent se prononcer sur cette mesure aujourd'hui. Boulangers, fleuristes, bouchers attendent effectivement cette autorisation officielle. Mais alors attention, parce qu'il faudra l'accord écrit des salariés pour travailler. Ça risque de tout compliquer, la réaction de l'hôtellerie-restauration, mais aussi vos témoignages et vos réactions au 32-16. Je vous attends si vous êtes patron ou salarié. Puis à 7h50, le ministre de l'Intérieur se dit favorable à la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça révolte notre voix de gauche sur RMC, Cécile Duflo. Rendez-vous donc à 7h50. Pour l'heure, il est 7h27. On se retrouve dans un instant. Restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le livret A n'a plus la cote. L'an dernier, les Français ont retiré plus d'argent qu'ils n'ont épargné et cela faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Donald Trump, de plus en plus difficile à suivre. Le président américain a pris de court le monde entier hier soir en annonçant un possible accord sur le Groenland et l'abandon des droits de douane pour ses alliés. Et puis quand un rugbyman s'engage concrètement aux côtés des femmes atteintes d'endométriose, le deuxième ligne Thibaut Flamand se met en retrait du 15 de France pour être aux côtés de sa compagne atteinte par la maladie.
Les Français boudent le livret A.
Après plusieurs années records, la tendance s'inverse. On l'avait déjà constaté sur plusieurs mois de l'année dernière. Et le bilan annuel de la Caisse des dépôts vient de le confirmer ce matin. En 2025, les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A. Et c'est une première depuis 2015, Romain Houg.
Oui, dans le détail, l'année dernière, les Français ont retiré 2,12 milliards de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A, qui, on le rappelle, est détenu par 57 millions d'épargnants et concentre près de 450 milliards d'euros. Mais les années fastes de la période Covid sont bel et bien derrière nous. L'attrait du livret préféré des Français a été plombé l'an dernier par les baisses successives de son taux de rémunération. En janvier dernier, c'était 3%. Aujourd'hui, il est tombé à 1,7% et ce sera seulement 1,5% dès le mois prochain. Et puis, la concurrence est rude pour le livret A. De plus en plus de Français lui préfèrent l'assurance vie qui affiche un taux de rendement bien supérieur, en moyenne de l'ordre de 2,65%. À noter quand même que ce dernier est imposé. Ça peut aller jusqu'à 30%, contrairement au livret A qui n'est pas soumis à la fiscalité.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Il est 7h32 et l'enquête se poursuit ce matin à Nice après la fusillade qui a éclaté en pleine rue et en plein jour hier, avenue Henri Matisse. Une femme d'une vingtaine d'années a été abattue au volant de sa voiture alors que son bébé de 6 mois se trouvait à l'arrière. Il est lui sain et sauf et tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs des tirs qui se sont enfuis à scooter. C'est ce que disait hier soir le procureur de Nice, Damien Martinelli.
Il y a un certain nombre d'éléments d'investigation qui sont déroulés pour essayer d'identifier le ou les personnes impliquées dans le cadre de cet assassinat. Il y a de l'exploitation de témoignages, de l'exploitation d'images de vidéoprotection. Il y a effectivement des recherches sur le véhicule. Autant d'investigations pour permettre de tirer des fils et pour identifier le ou les personnes impliquées dans ces faits.
7h33, Donald Trump a-t-il obtenu tout ce qu'il voulait? C'est toute la question ce matin, après son annonce surprise hier soir au Forum économique mondial de Davos d'un début d'accord sur le Groenland. Accord aux contours encore très flous. Il reste beaucoup de travail, selon le chef de l'OTAN, à la manœuvre. Mais ça n'a pas empêché le président américain de fanfaronner, Alfred Orange.
Quelques minutes après l'annonce de ce projet d'accord, Donald Trump s'est empressé de venir devant la presse pour se féliciter de cette issue.
C'est un très bon accord pour tout le monde, aussi bien pour notre sécurité nationale que pour notre sécurité internationale. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. Cet accord nous donne tout ce que nous voulions.
Un peu plus tôt, le président américain avait annoncé qu'il n'emploierait pas la force pour s'emparer du Groenland. Une délivrance pour les 37 000 habitants de l'île, comme Isaac, pêcheur à Nuuk, la capitale.
On ressent un immense soulagement qui s'exprime de plein de manières, parce qu'ici on était super inquiet avec ce qu'il aurait pu se passer, puisqu'il était question d'utiliser la force. Je suis super soulagé, mais avec Donald Trump, on ne sait jamais.
Une annonce assortie d'une autre promesse, Donald Trump renonce aussi à imposer des droits de douane pour 8 pays européens, dont la France, au 1er février. Aussi concernée, l'Italie de Giorgia Meloni a aussitôt réagi, encourageant, je cite, à favoriser le dialogue entre nations alliées.
7h34 sur RMC, le scandale des laits infantiles prend un peu plus d'ampleur ce matin avec ce nouveau rappel, cette fois du groupe Lactalis, qui concerne 6 lots de la marque Pico en France et dans 16 autres pays. Jusqu'ici, seule Nestlé était concernée, deux entreprises françaises qui ont un point commun, un même fournisseur basé en Chine. C'est lui qui serait à l'origine de la contamination selon les autorités sanitaires françaises. Un manque de transparence et de traçabilité qui inquiète beaucoup ses parents rencontrés à Bordeaux par Pierre Bourgès.
Julien donne régulièrement du lait en poudre à son fils Malo, 9 mois, mais ses rappels en série l'interrogent.
On est peut-être un petit peu démunis parce qu'on fait confiance. Si on peut plus faire confiance dans la marque qu'on utilise, ça peut nous inquiéter.
Selon les fabricants, un ingrédient d'un fournisseur pourrait être contaminé à la céréulide qui peut provoquer diarrhée et vomissement. 3 marques ont été rappelées, mais pourquoi pas d'autres, s'inquiète Léa, son bébé serré contre sa poitrine.
Ma fille qui a 2 mois, je viens de la passer sur un lait industriel d'un gros labo. Du coup, j'ai pas super confiance.
non plus. Alors qu'a priori, il n'a pas été rappelé. Je me pose la question maintenant de changer. Je pense que je vais le faire sur des plus petites marques avec des labos un peu plus indépendants où c'est mieux contrôlé. Ça me rassure, ouais.
Cette affaire, c'est celle de trop pour Quentin Guillemin, président de l'Association pour la santé des enfants, créée lors du scandale du lait contaminé de Lactalis en 2017.
On a encore des entreprises qui nous montrent qu'elles sont pas capables de contrôler les produits avant même qu'ils les utilisent et qu'ils les vendent. Pourquoi ne l'ont-ils pas su en amont? Pourquoi Lactalis le découvre aujourd'hui? C'est pas possible.
De son côté, Lactalis assure n'avoir reçu aucun signalement en lien avec les produits en question.
Une plainte a été déposée par l'association Foodwatch, notamment pour faire la lumière sur la lenteur des autorités sanitaires françaises à se saisir du sujet, sujet qui fait l'objet d'une alerte depuis 2 mois déjà sur le marché européen. Il est 7h36 et on vous en parlait hier sur RMC, la montée en puissance du sexisme radical. Voilà qui pourrait ce matin nous redonner un peu d'espoir, la prise de parole à nos confrères de l'équipe du deuxième ligne du 15 de France, Thibaut Flamand, qui s'engage sur l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 en France, dont sa compagne. Et il a décidé, pour la soutenir, de se déclarer forfait pour le prochain match des Bleus début février face à l'Irlande. Morgane Maury.
Une décision à deux, car l'endométriose est une maladie de couple, pas seulement de la femme, explique Thibaut Flamand. Marié l'été dernier, le rugbyman et sa femme ont un désir d'enfant, mais après la découverte d'un problème d'infertilité lié à l'endométriose, ils ont entamé les démarches pour avoir un enfant par procréation médicalement assistée, la PMA. Ce processus va débuter le 2 février, 3 jours avant la rencontre face à l'Irlande. Flamand veut être aux côtés de sa femme et c'est une obligation légale. Repousser la PMA entraînait plus de risques et de stress et n'était pas cohérent avec notre désir, avoue le joueur à l'équipe. Mon rôle est d'être auprès d'elle, insiste-t-il. Il ne veut pas parler de la rencontre suivante face au Pays de Galles le 15 février. On essaie de vivre ce processus comme une belle expérience, d'être le plus heureux possible, conclut-il. Le rugby peut bien attendre.
En Ligue des Champions, Marseille a été battu 3-0 hier soir par Liverpool. Prochain match décisif pour l'OM mercredi prochain face à Bruges pour espérer une qualification en 8e de finale. Et ce soir, c'est la Ligue Europa qui reprend pour le compte de la 7e journée de phase de Ligue avec 3 clubs français engagés, Lille, Lyon et Nice.
Et puis le Quintet, Élise, 13h55 sur l'Hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 6, Janko Ofor. L'outsider, c'est le 13, Jibi du Fruitier.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Permettre aux salariés de travailler le 1er mai, oui, mais alors attention à ne pas créer une usine à gaz. Voilà votre alerte ce matin. Catherine Kérard, bonjour. Vous représentez l'hôtellerie-restauration. Les députés doivent voter aujourd'hui pour une plus large ouverture des commerces le 1er mai. Sauf qu'il va falloir remplir de la paperasse, il va falloir obtenir un accord écrit précis des salariés. Et c'est ça qui vous inquiète. Il ne faut pas que ce soit une fausse bonne idée. Voilà vos craintes que vous nous donnez dans un instant et vos réactions. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être salarié. Est-ce que oui, vous voudriez pouvoir travailler le 1er mai et être payé double d'ailleurs au passage? Et si vous êtes patron, commerçant, restaurateur, est-ce que ça vous paraît une fausse bonne idée ou une usine à gaz? Vous nous appelez et vous réagissez au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et sur RMC Story. Des boulangeries, des fleuristes, des bouchers, mais aussi des restaurateurs qui pourront ouvrir tranquillement le 1er mai. Ça devrait être le cas cette année si les députés qui débattent aujourd'hui de la question votent la loi qui va officialiser l'ouverture le 1er mai. Bonjour Catherine Kérard.
Bonjour.
Vous présidez le GHR, ça représente les hôtels et la restauration. Vous suivez près ces discussions parce que vous êtes en quelque sorte entraînée, j'allais dire presque malgré vous, dans la discussion de ce texte aujourd'hui. Au départ, ce sont les boulangers qui ont alerté parce qu'il y avait cette situation un peu étrange, où à la fois ils avaient l'autorisation d'ouvrir le 1er mai, mais ils n'avaient pas l'autorisation de faire travailler leurs salariés. Pour mettre en adéquation tout ça, ils ont alerté les députés qui, aujourd'hui même, en débattront et pourraient donc officialiser l'ouverture et le fait de faire travailler ses salariés le 1er mai. Sauf que ça a été élargi à d'autres secteurs, boulanger, oui, mais aussi fleuriste, boucher et hôtellerie, restauration. Vous demandiez rien, vous?
On ne demande rien parce que nous ouvrons déjà le 1er mai puisque ce sont des dispositions conventionnelles qui sont appliquées dans notre secteur historique.
Donc, en étant entraîné dans cette loi, au fond, ça va rajouter une certaine contrainte. Pour l'instant, pour vous, quand c'est ouvert le 1er mai, les salariés travaillent. qu'ils le veuillent ou non.
Qu'ils le veuillent ou non, mais qui sont payés double, et ça fait partie, nous sommes des entreprises de l'hospitalité. Donc, un voyageur en déplacement, il peut s'héberger et se nourrir, quel que soit le jour de l'année.
Oui, vous n'allez pas tout d'un coup lui dire de repartir, le touriste, le 1er mai, pour fermer la boutique.
Exactement.
Mais avec cette loi, vous allez devoir faire signer vos salariés une sorte de décharge qu'ils s'engagent à travailler officiellement le 1er mai.
Exactement, c'est pour ça qu'on alerte l'auteur de cette loi en disant on veut amender cette loi simplement pour ne pas avoir d'insécurité juridique, pas d'aléa social et de créer un préjudice qui pourrait être pour notre secteur d'activité.
Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, même les restaurants routiers, j'allais dire, ou les restaurants qui sont au bord de l'autoroute, ou les autoroutes qui sont ouvertes le 1er mai, pourraient soudain se retrouver fermées parce que vous n'auriez pas obtenu suffisamment d'autorisation de vos salariés ?
C'est exactement cela. Et on peut le constater d'ailleurs sur certains autres jours fériés. Je pense notamment à des traiteurs événementiels qui pourraient se retrouver coincés parce qu'ils n'auraient pas les équipes suffisantes. Un exemple, un match de foot déplacé le 1er mai, c'est arrivé l'année dernière, un grand match de Ligue 1, et qui a les traiteurs événementiels qui participent pour l'animation, etc. de ce match et qui n'auraient pas les équipes, eh bien, vous vous retrouvez dans une difficulté terrible.
Donc, au fond, pour vous, c'est une fausse bonne idée.
C'est une fausse bonne idée pour le secteur de l'hôtellerie-restauration.
En revanche, c'est une bonne idée pour les boulangers. Il y a David qui est avec nous, qui est boulanger au Talus dans les Deux-Sèvres. Bonjour, David.
Bonjour Apolline, heureuse de t'entendre.
David, pour toi, pour vous, dans la boulangerie, ouvrir le 1er mai, c'est vital.
Bah, c'est important, puis il y a beaucoup de manifestations, il y a des tournois de foot, des vide-greniers, et puis en zone touristique, il y a beaucoup de monde sur les côtes, comme en Bretagne, Charente-Maritime, tout ça, il y a du monde, quoi. Alors nous empêcher de travailler. Alors ce qui est marrant, tu vois, l'année dernière, c'est que le représentant de la CGT est venu acheter du pain le 1er mai. Je lui ai dit, on fait une photo, il n'a pas voulu.
Ouais. Il n'a pas voulu assumer qu'il achetait du pain le 1er mai.
Voilà,
parce qu'en effet, la CGT est tout à fait contre cette proposition de loi donc qui sera débattue cet après-midi.
Moi, je les avertis que les présidentielles arrivent. Alors, leur vote, on va le surveiller de près, parce que nous, on est boulangers, mais il y a nos consommateurs aussi. Donc, c'est bien beau de nous faire des promesses, tout ça, de dire on va y aller, et puis et maintenant, il faut agir.
Le premier donc, moi,
j'avais interpellé Gabriel Attal quand il était venu chez moi, à la boulangerie, sur ce sujet. Il m'a dit, on va avancer, bon, on verra bien ce qu'ils vont voter, mais je les appelle à prendre conscience que derrière, il y a des familles, il y a de l'emploi, et puis nous, on a des factures à payer. Hein. La boulangerie, actuellement, elle est en grande souffrance. Donc, nous faire fermer un week-end du 1er mai, c'est inacceptable.
C'est inacceptable. Merci, David, d'avoir réagi. David, c'est la boulangerie L'Angélique, et c'est au Talus, dans les Deux-Sèvres. Je voudrais que vous réagissiez à ça, Catherine Kérard, parce qu'effectivement, au fond, ce mouvement, il vient des boulangers, mais il vous a effectivement entraîné en quelque sorte. Qu'est-ce qui pourrait changer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore possible cet après-midi que les députés modifient pour pouvoir vous permettre à vous de continuer à ouvrir tel que vous le faisiez jusqu'à présent ?
Absolument. On demande à amender le texte, de rajouter 6 mots. Sans,
lesquels ?
Sans préjudice des dispositions conventionnelles existantes.
Et ça permettrait effectivement que pour vous, vous puissiez continuer à bosser comme avant ?
Ça règle le cas, ça sécurise les boulangers et le travail volontaire pour la boulangerie. Et nous, ça nous permet de travailler puisque la convention collective le permet.
Maxime n'est pas boulanger, mais menuisier à Landerneau dans le Finistère. Bonjour Maxime.
Bonjour Apolline.
Vous bossez pas le 1er mai, vous ?
Non, je ne bosse pas. Mais bon, si de temps en temps quand même, je suis à mon compte, donc...
Il vous arrive de devoir finir quelque chose le 1er mai. Maxime, vous trouvez que c'est normal de laisser les gens travailler quand ils veulent travailler, y compris un jour aussi sacré, j'allais dire, que le 1er mai ?
Ben oui, si les gens veulent travailler, je comprends pas. On dit que le français n'est pas bosseur. Mais si les gens veulent travailler, laissez-les travailler. Il faudrait que les employés fassent un papier maintenant pour pouvoir avoir le droit de travailler. Mais c'est n'importe quoi, encore des papiers. Moi, je comprends pas. Faut laisser les gens travailler.
Laissez les gens travailler. J'entends, Maxime, qu'il y a des enfants autour de vous.
Oui, j'ai deux enfants, et ma fille de 7 mois et ma fille de 4 ans.
Eh ben, on les salue. Et Maxime, ça veut dire que vous n'êtes pas encore au boulot à 7h48. Vous n'êtes pas encore parti.
J'y cours.
On fait quoi des enfants le 1er mai, d'ailleurs, si on travaille ? C'est vrai que c'est compliqué, ça.
Bah non, on s'en occupe. Hein. On n'a pas le choix,
Exactement. Merci Maxime, en tout cas, 7h48. Merci aussi à vous, Catherine Kérard, d'avoir donc réagi. Je rappelle effectivement, puisqu'on citait à l'instant la CGT, Sophie Binet de la CGT avait réagi à cette proposition de loi. Il y a 364 autres jours pour ouvrir pour les travailleurs et les travailleuses. C'est férié, c'est chômé, c'est un acquis de la lutte. Voilà la position de la CGT qui s'oppose donc à cette proposition de loi qui sera, on le rappelle, discutée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale par les députés. Catherine Kérard, représentante de l'hôtellerie Restauration, merci à vous. Il est 7h49 sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Cécile Duflo, écoutez, hier soir sur BFM TV.
La présomption, c'est simplement quelque chose qui considérera que quand un policier aura fait usage de son arme, la légitimité de cet usage sera présumée.
Vous l'avez reconnu, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il est favorable à une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Et ça vous met hors de vous, Cécile?
Je pense que c'est une catastrophe. Ça va faire beaucoup plus de morts alors qu'on est déjà record d'Europe des morts par tir policier.
Votre parti pris la voie de gauche dans un instant. Il est 7h49 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo, mais tout de suite le bonus, Mathieu.
Eh oui.
Ce soir, c'est le gala des pièces jaunes.
Et c'est en train de s'installer comme un événement chaque année, un grand concert à la Défense Arena, du grand spectacle des artistes français et internationaux de renom comme Bob Sinclair que vous entendrez, mais aussi Christina Aguilera. Vous l'avez bien reconnue, icône pop des années 2000. De retour sur une scène française ce soir, c'est Teddy Riner qui animera la soirée organisée au profit de la Fondation des Hôpitaux comme pour la récolte des pièces jaunes. Mika sera aussi de la partie. Gims, Charlotte Cardin, le rappeur A$AP Rocky aussi, dont la femme Rihanna sera assise à côté de Brigitte Macron, nous dit-on. Ils devront faire mieux que l'an dernier et le 1 800 000 euros récoltés, renforcés par l'arrivée de nouvelles stars de K-pop que le paysage français découvre, comme J-Dragon ou Stray Kids.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h51 sur RMC et sur RMC Story à la télé. Ce matin, voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour. Une proposition de loi soutenue par les Républicains envisage une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. C'est une mesure qui est soutenue par le gouvernement, mais pour vous, c'est une catastrophe.
Oui, c'est une catastrophe et c'est pas bon pour les policiers, mais j'y reviendrai. D'abord, une réalité, la France est en tête de l'Europe pour le nombre de morts par tir policier et ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors que la réalité, c'est que les policiers qui tirent et qui tuent des personnes sont très peu condamnés. De fait, l'appréciation juridique, elle est très très extensive déjà aujourd'hui, donc il y a pas besoin de cette loi. En revanche, elle va avoir des effets négatifs.
Quel serait le risque majeur pour vous de cette loi?
Le risque majeur, il est très clair, ça va augmenter les blessés et les tuer. Parce que, en fait, quand vous avez ce type de disposition juridique, ça produit un gros relâchement dans l'attitude et dans les décisions des policiers. C'est un effet psychologique. Il y a une forme d'assouplissement légal qui réduit la perception du risque pénal pour les policiers, du coup qui favorise le tir. Et puis, il y a un déplacement des normes. Et même si, et on a entendu hier soir, effectivement, le ministre de l'Intérieur insister, c'est une présomption, etc. Ça ne change pas les règles d'engagement. De fait, ça change les règles d'engagement. C'est-à-dire que les policiers tirent plus facilement en pensant que ce qui est autorisé et plus large.
Mais vous avez des chiffres pour affirmer ça?
Oui, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'avant on aurait pu dire que c'était un a priori, mais depuis la loi de 2017, il y a un chercheur qui a fait une étude scientifique, mais vraiment comme une étude médicale, pour une raison très simple, la loi s'applique pour les policiers, mais pas pour les gendarmes. Donc il y a eu autant de refus d'obtempérer en zone police, 13 000, qu'en zone gendarmerie, 13 000. Et pourtant, en zone police, les tirs mortels, depuis 2017, ont été multipliés par 6. Donc voilà, là on a le résultat de cette loi, puisque ça s'applique qu'à la police. Et les gendarmes font tout aussi bien leur travail. Donc vraiment, c'est un énorme problème cette loi. Et je veux le dire, en aimant beaucoup la police, j'ai été accompagnée 24 heures sur 24 par un policier pendant 2 ans. Leur rôle est essentiel, et c'est justement parce que le rôle de la police dans la société est essentiel qu'il faut pas voter cette loi.
Ça se passe comment ailleurs en Europe?
Il y a un seul tir mortel en Allemagne sur 10 ans de policiers. Donc les choses se passent très différemment en Grande-Bretagne, très différemment absolument partout. La France devient une exception. Et on sait très bien que quand on relâche la pression légale sur la police, on aboutit aussi à des situations de tension qui font que les policiers, on le voit avec ICE aux États-Unis, se mettent parfois, certains d'entre eux, à faire n'importe quoi. Et y compris, l'encadrement n'est plus capable de gérer certains excès.
Pour vous, il y a un risque qui est de saper la relation entre la police et la population.
Oui, je le dis, c'est ça qui est le le plus grave en fait dans cette loi, c'est que en fait on donne quand même de fait une espèce de lassitude, d'amplitude à l'action de la police et au danger que représentent les tirs mortels, avec l'idée du coup qu'une grande partie de la population est menacée. Le droit à la vie, c'est sacré et c'est protégé dans toutes les conventions internationales, dans la Constitution, et là on déséquilibre l'équilibre précieux entre le droit à la vie et les méthodes d'intervention de la police, et ça ne protège pas les policiers, c'est l'autre chose qu'il faut dire. Les policiers aujourd'hui, ils meurent beaucoup moins en service que dans les années 80, parce que la délinquance a changé, elle se tue entre elles maintenant, et c'est une bonne chose, et je pense qu'ils peuvent bien faire le travail et qu'ils n'ont absolument pas besoin de cette loi, et que le ministre de l'Intérieur a tort de céder à la surenchère de certains syndicats qui vont fragiliser le lien police-population qui est extrêmement précieux dans une démocratie.
Merci Cécile. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Demain, place au débat. Voix de droite, voix de gauche, ce sera comme tous les jours à 7h50. Dans un instant, le journal de 8h. Une mère de famille abattue en plein Nice hier soir. Le ou les tireurs sont d'ailleurs toujours recherchés. On sera sur place en direct dès le début de ce journal. La météo, un temps très agité dans l'ouest et près de la Méditerranée. C'est simple, il pleut presque partout. Et puis juste après le journal, on va parler économie avec Emmanuel Le Chypre qui est de retour. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le gouvernement veut relancer le marché de l'immobilier.
Ah oui, avec un nouveau dispositif plutôt attractif.
Vous nous le racontez dans un instant. Restez bien avec nous, il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.